Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce mardi 23 avril. Et vous l'aurez certainement remarqué, le dicton « en avril ne te découvre pas d'un fil » n'était pas complètement anecdotique puisque ça caille et il y a du vent encore pour un petit moment. Dans la semaine, on reste donc au chaud à écouter la radio et on vous remercie d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler du terrible sort des bénévoles des Jeux Olympiques de Paris qui se retrouvent quasiment esclavagisés avec des missions de bénévolat qui ressemblent fortement à du travail salarié déguisé. C'est d'ailleurs ce que critique une partie des syndicats. On viendra aussi un petit peu sur les gardes à vue qu'ont subi ces militants interpellés à Rennes. L'action était menée en décembre dernier, ils ont été interpellés ce 8 avril. Il y a des témoignages un petit peu de ce qu'ils ont pu vivre dans les locaux de la direction de l'antiterrorisme qui ont été divulgués sur Bastamag. On va parler du projet du Royaume-Uni de renvoyer des migrants au Rwanda qui a été validé par la Chambre haute cette nuit. Et puis aussi des accusations d'Israël contre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza qui viennent de subir un sacré désaveu, en tout cas de la part d'un rapport rendu par l'ONU. Voilà un petit peu pour le menu. Mais avant cela, deux petites brèves piochées au hasard de mes tribulations sur Internet. Je viens de lire qu'un décret a été publié ce dimanche dans le journal officiel, donc, et un décret qui acte le durcissement de l'attribution des aides familiales et du minimum vieillesse selon la durée de résidence en France. À partir de l'année 2025, il faudra donc passer au moins 9 mois en France et non plus 6 pour pouvoir bénéficier de ces aides sociales. Donc 3 mois de plus sur l'année en France pour bénéficier d'aides familiales. Ce décret est paru ce dimanche. Il officialise des annonces du gouvernement pour toucher des prestations familiales, ce qui contient par exemple les allocations familiales ou la prime à la naissance d'un enfant. Il faudra avoir résidé dans le pays donc pendant plus de 9 mois au cours de l'année civile de versement. Aujourd'hui, on en est à 6 actuellement. Ce changement est donc effectif à partir de 2025 et cette règle des 9 mois de résidence concerne également, je vous le disais, l'octroi de l'allocation minimum vieillesse. Pour la plupart des aides sociales, la règle est actuellement de séjourner en France au moins la moitié de l'année écoulée, ça fait 6 mois, et le gouvernement en avait déjà parlé en 2023 avec cette intention de porter à 9 mois ce délai dans le cadre d'un vaste plan de lutte contre ce qu'il appelle de la fraude sociale. Gabriel Attal, qui était alors encore ministre des Comptes publics, en a fait part de cette volonté d'ailleurs. La mesure ne concerne pas plusieurs aides quand même, il faut le noter, notamment la protection universelle maladie. La PUMa, qui est l'héritière de la CMU, elle n'est pas conditionnée à cette mesure, une mesure qui en termes de fraude risque certainement surtout de concerner, pour ce qui est du minimum vieillesse, des personnes qui ont fait toute leur carrière en France et qui peut-être retournent dans leur pays d'origine pour profiter un petit peu de leur retraite. Donc voilà, ces anciens travailleurs devront a priori rester plutôt dans leur bar HLM en France et puis pouvoir retourner 3 mois par an se reposer chez eux. Voilà. Une autre petite brève qui nous vient du site Reporter où on s'intéresse à la corrélation entre le nombre de loups en France et les attaques sur du bétail. A priori, on se dirait que plus de loups en France veut forcément dire plus de bétail chassé. Eh bien, c'est faux. C'est ce 10 avril que la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement, l'ADREAL, a dévoilé des données qui ont été actualisées justement concernant ce qu'on appelle les prédations commises par ces grands prédateurs que sont les loups. Et ainsi, on apprend qu'en 2023, il y a eu 10 882 animaux domestiques tués par des loups en France. Et ça fait 13% de moins qu'en 2018, la dernière fois qu'il y avait eu des études de ce genre, donc 5 ans avant, donc 13% d'attaques de moins en 5 ans, et pourtant, chaque année, donc depuis à peu près 6 ans, on en est à peu près au même chiffre, hein, ça reste assez stable, il diminue légèrement, et dans le même laps de temps, la population de loups, elle, s'est envolée. C'est aujourd'hui 572 individus qui étaient comptés en 2018, et aujourd'hui, sur le territoire français, on en a plus de 1100. Donc, elle a plus que doublé la population de loups, hein, exactement 94% d'augmentation, et je vous le disais, 13% de moins d'attaques sur des troupeaux. Ce découplage, donc cette complètement divergent entre ces deux données, semble suggérer donc, que le triptyque qui sont protection des troupeaux, le gardiennage, les chiens de protection et les clôtures, eh bien tout cela parvient donc effectivement à limiter la prédation des loups sur les troupeaux. Et ce, malgré, vous l'aurez compris, l'augmentation du nombre de loups. En décembre 2023, dans une tribune du journal Le Monde, un collectif de chercheurs dénonçait d'ailleurs l'entêtement de l'État à mener sa politique des tirs létaux sur les loups, les tirs donc pour les tuer. L'efficacité de cette politique dans la diminution des dommages n'avait pourtant jamais été prouvée. C'est plus un acte symbolique. Ce constat plaide donc pour donner la priorité dans l'action et la recherche aux mesures de protection des troupeaux, écrivent ainsi les auteurs qui ont affiché ces dernières données.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein ?
Des nouvelles du monde.
Un autre rapport qui vient aussi contredire certaines informations, on pourrait traduire cela que Israël n'a pas pu étayer ses accusations contre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. C'est l'UNRWA, United Nations Refugee World Agency, ça veut dire en anglais, l'agence de l'ONU donc pour les réfugiés palestiniens, qui officie dans la bande de Gaza. Alors elle a bien des problèmes de neutralité politique, ça c'est ce que dit aussi ce rapport, mais Israël doit encore fournir la preuve de ces allégations, à savoir que certains de ses membres auraient été liés à des organisations terroristes. C'est un rapport qui est paru hier, qui a été remis au chef des Nations Unies, qui précise tout cela. Alors, et malgré donc ces remarques sur la neutralité politique des membres de l'UNRWA, il est écrit également que cet organisme est irremplaçable et indispensable aux Palestiniens. L'enquête a été faite par un groupe indépendant, présidé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, et ce groupe a été chargé par le secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres, d'une mission justement d'évaluation sur la fameuse neutralité de cette agence de l'ONU. On y lit donc que l'UNRWA demeure cruciale pour apporter une aide humanitaire vitale et des services sociaux essentiels, notamment en matière de santé et d'éducation, aux réfugiés palestiniens à Gaza, en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Cisjordanie. Un rapport qui était très attendu, hein, qui fait une cinquantaine de pages, qui est donc sorti ce lundi, et qui explique qu'en dépit de ce cadre solide, des problèmes liés à la neutralité persistent en effet. Il s'agit par exemple de cas d'employés du personnel qui expriment publiquement leurs opinions politiques, de livres scolaires avec des contenus problématiques venant du pays hôte et qui sont utilisés dans certaines écoles de l'UNRWA. Il s'agit également de syndicalistes politisés qui profèrent des menaces contre l'encadrement de l'UNRWA et qui peuvent perturber des opérations humanitaires. Donc tout ça, c'est ce qu'a pu observer et documenter ce groupe indépendant donc, à qui on a demandé un petit peu de se pencher sur l'affaire. Cette agence, donc l'UNRWA, compte plus de 30 000 employés dans la région. Hein. Je vous l'ai dit, Gaza, mais aussi Cisjordanie, Liban, Jordanie et Syrie. Eh bien, si cette commission a lieu, c'est qu'elle est accusée par Israël d'employer plus de 400 terroristes à Gaza. Ça, ce sont des accusations du gouvernement d'Israël. Et ils ajoutent que 12 de ces employés sont accusés par les Israéliens d'avoir été directement impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas sur le sol israélien, une attaque qui a fait 1160 morts, essentiellement des civils, selon ce bilan de l'AFP qui est établi à partir de données officielles. Alors, si on se revient sur cette agence de l'ONU, sur la base d'une liste de mars 2024 qui contient les numéros d'identité de Palestiniens, Israël a affirmé publiquement qu'un nombre significatif d'employés de cette agence étaient membres d'organisations terroristes au pluriel. Cependant, Israël doit encore en apporter la preuve, conclut donc ce rapport, qui n'est pas tendre donc avec les accusations d'Israël. D'autant que cette agence, qui a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, reste la colonne vertébrale des opérations humanitaires dans la bande de Gaza. Ça a encore été répété la semaine dernière devant le Conseil de sécurité. Eh bien, le patron de cette agence, qui s'appelle Philippe Lazzarini, et il dénonce, lui, une campagne insidieuse pour mettre fin à ces opérations. Ce que certains ont même appelé une intox d'envergure mondiale de la part d'Israël, ça s'est passé en janvier de cette année. Donc l'UNRWA, cette agence humanitaire chargée de venir en aide à la population gazaoui, serait pour Israël un repère de terroristes et des membres de son personnel, je vous le disais, auraient directement participé aux attaques du 7 octobre. Il faut aussi recontextualiser le moment où s'est sortie justement cette accusation. Deux jours avant, je ne sais pas si c'était un tweet ou un mail de la part du gouvernement israélien, deux jours donc avant cette diffusion, eh bien la Cour internationale de justice, donc la plus haute juridiction internationale, reconnaissait que l'accusation de génocide à l'encontre du peuple palestinien par l'État d'Israël était juridiquement fondée. La contre-accusation donc, de terrorisme visant l'organisation humanitaire à Gaza, c'était une sorte de contre-feu médiatique pour une décision historique. Et pourtant, donc, cette affirmation Israël, toujours non vérifiée, a eu un effet immédiat, hein, puisque dans la suite de cette déclaration, 10 pays occidentaux ont coupé leur financement à l'UNRWA, notamment les États-Unis, c'est pas rien, hein, c'est le premier donateur normalement, 300 à 400 millions de dollars par an, mais aussi la France, l'Allemagne et bien d'autres. Certains ont depuis repris leur versement. Et d'ailleurs, dans leur rapport, on explique que l'UNRWA envoyait régulièrement aux autorités israéliennes les listes avec les noms de ses employés et leurs fonctions, et qu'à l'époque, en tout cas depuis 2011, Israël n'a jamais fait part d'éventuelles réserves, alors qu'elle avait a priori pas mal d'informations sur chacun de ses personnels. En tout cas, pour l'avenir de cette agence, qui est donc, vous l'aurez compris, un petit peu sur la sellette, mais que ce rapport vient quand même légitimer dans son action, eh bien, si elle était démantelée, l'UNRWA, cela aurait des répercussions durables, prévient son directeur, avec notamment comme conséquence directe d'aggraver la crise humanitaire à Gaza et d'accélérer l'arrivée de la famine. Une famine qui menace déjà le nord du territoire palestinien, où plus de 34 000 personnes, la plupart étant civiles, ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas. On part aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou d'où d'ailleurs on va peut-être aussi partir pour le Rwanda, puisque c'est ce que vient valider ce projet qui a été voté là dans la nuit de lundi à mardi. Un projet approuvé donc par le Parlement britannique qui permettra d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile qui sont entrés illégalement au Royaume-Uni. Ce texte a été donc validé après une interminable bataille entre la Chambre haute, qui était plutôt réticente face à ce texte très controversé, et la Chambre basse. Bon, ça, c'est les arcanes du pouvoir britannique. Mais en tout cas, pour ce qui est des demandeurs d'asile rentrés illégalement, bah, pour la plupart, vous le savez, ils sont certainement arrivés en canot pneumatique ou cachés dans des camions. Et donc, en attendant le traitement de leur sort de manière administrative, l'idée, c'est qu'ils aillent plutôt au Rwanda, plutôt que dans un établissement donc sur le sol britannique. D'ailleurs, le patron des droits de l'homme du Conseil de l'Europe a appelé aujourd'hui le gouvernement britannique à revenir en arrière sur ce projet donc d'expulser ces migrants vers le Rwanda. Il s'appelle Michael O'Flaherty, c'est le commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme. C'est une institution dans laquelle sont réunis 46 États membres et qui est dépositaire donc de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc cet Irlandais, le nouveau commissaire aux droits de l'homme, se dit très inquiet que le projet de loi sur le Rwanda autorise à expulser des gens vers ce pays sans que leur demande d'asile ait été étudiée par les autorités britanniques dans la plupart des cas. C'est-à-dire que c'est dans l'attente de traitement de votre dossier que vous allez aller au Rwanda. Le nouveau commissaire aux droits de l'homme, donc toujours Michael O'Flaherty, rappelle aussi qu'au terme de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Royaume-Uni n'a pas le droit de refouler des demandeurs d'asile vers leur pays d'origine, même indirectement via un pays tiers. Ce pays tiers, c'est donc ici, dans ce cas-là, le Rwanda. Et le texte, qui a donc été approuvé aujourd'hui à la Chambre des communes, interdit explicitement aux tribunaux britanniques d'évaluer le risque que le Rwanda expulse des gens vers d'autres pays. Et il leur interdit de se pencher sur l'équité et le fonctionnement des procédures d'asile au Rwanda. Donc ça pose un petit peu problème, puisqu'on ne permet pas donc à ces personnes expulsées de trouver les mêmes droits qu'elles auraient au Royaume-Uni. Donc c'est une forme de délégation de sous-traitance, mais sans aucune vision sur ce qui va se passer derrière. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme qui émane du Conseil de l'Europe, avait en juin 2022 déjà empêché in extremis un premier vol prévu par Londres à destination du Rwanda. Fin 2023, le Premier ministre britannique Rishi Sunak était un petit peu fâché et avait assuré justement qu'il ne permettrait pas à une cour étrangère de bloquer les vols vers le Rwanda. Étrangère, il entendait par là européenne. Et sinon, du côté du Rwanda, qu'est-ce qu'on dit ? Le gouvernement de Kigali, lui, se dit très satisfait de ce vote par le Parlement britannique. Et voilà, c'est ce qu'a affirmé la porte-parole du gouvernement dans la foulée de l'annonce, Yolande Makolo. Ce communiqué a été transmis dans l'AFP. Et on y lit aussi que les autorités, justement, rwandaises, étaient impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. C'est très joli, on dirait qu'ils partent en voyage quand c'est dit comme ça. Et certainement qu'elle était aussi très contente et impatiente d'accueillir les jolies compensations financières qui vont aller avec cette transaction. Vous vous en doutez bien, c'est pas juste pour rendre service. C'est un nouveau traité en fait qui a été signé entre Londres et Kigali et qui prévoit donc le versement de sommes substantielles au Rwanda en échange donc de l'accueil de migrants. Ce texte visait à répondre aux conclusions de la Cour suprême britannique qui avait tout d'abord jugé le projet illégal, tel qu'il était présenté initialement en mois de novembre. Dans ce traité, on y lit que le Rwanda est un pays tiers sûr, c'est-à-dire dans lequel les gens seront bien traités. Et pourtant, si le Rwanda se présente comme l'un des pays les plus stables du continent africain, son président, Paul Kagame, l'homme fort donc, du pays de cette région des Grands Lacs depuis 1994, le président donc, est accusé de gouverner dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression. Après avoir un chiffre record en 2022, avec 45 000 personnes, qui a baissé en 2023 autour de 30 000, le nombre de personnes qui ont traversé clandestinement la Manche à bord de canots de fortune a augmenté de plus de 20% depuis le début de cette année par rapport à l'an dernier.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
On revient en France avec les suites de cette enquête sur une action militante qui a été menée en décembre dernier. Une action qui visait le site d'une cimenterie Lafarge encore. Et dans le cadre donc de cette action et de l'enquête qui va avec, 17 personnes ont été interpellées ce 8 avril. Et elles ont subi 3 jours de garde à vue, comme il est de coutume maintenant dès qu'on est accusé de terrorisme. 8 de ces personnes ont été relâchées sans poursuite. Et donc, ce sont des journalistes de Bastamag qui sont allés les rencontrer pour avoir un petit peu des témoignages sur comment elles ont vécu ces 3 jours. Ces 4 personnes donc, qui témoignent là, dans cet article, qui ont pris des noms d'emprunt, Mathilde, Dimitri, Paul et Michel, ils ont tous vu, en tout cas, les forces de l'ordre débarquer chez eux le 8 avril à l'aube. Ils ont été emmenés les yeux bandés et menottés en garde à vue. Donc, braqué dans sa maison, la porte défoncée et hop, en voiture pour une garde à vue antiterroriste de 3 jours. Cette opération policière a eu lieu donc dans le cadre de l'enquête qui a été confiée à la SDAT, la sous-direction antiterroriste, de la Direction nationale de la police judiciaire et aussi à la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen. On est en Seine-Maritime. Ça concerne donc une action militante qui a eu lieu le 10 décembre 2023 sur le site d'une cimenterie Lafarge dans l'Eure. Une centaine de personnes donc pénètrent sur ce site pendant une dizaine de minutes avec de la peinture et de la mousse expansive. Il y a des photos qui ont été diffusées de cette action. L'action s'inscrivait dans le cadre d'une campagne d'action sur le plan national qui s'intitulait « Contre la farge et le monde du béton ». Plus de 200 organisations y participaient, et ainsi que des comités locaux des soulèvements de la terre. Revenons à nos 4 militants, donc Mathilde, Dimitri, Paul et Michel. Ils font partie de ces 8 personnes qui ont été relâchées, puisque leur affaire est classée sans suite. Pour les 9 autres, donc, qui sont toujours, eux, dans le collimateur de la justice, 5 sont d'ailleurs sous contrôle judiciaire, et bien un procès aura lieu au tribunal correctionnel d'Évreux, ça sera au mois de juin, le 27 juin exactement. Les chefs d'inculpation sont quand même très graves, hein, association de malfaiteurs, séquestration et dégradation, le tout étant toujours aggravé par le fait d'agir en réunion, c'est-à-dire pas tout seul. On va revenir sur cette, au moins le... La garde à vue de ces personnes et comment s'est passé le début. Paul, par exemple, se souvient que la BRI, donc la Brigade de Recherche d'Intervention, s'est trompée d'adresse et a défoncé la porte d'un appartement voisin vers 6h du matin. C'était un Airbnb vide. Aveuglés dans mon lit avec une lumière, ils ont lancé leur bouclier d'intervention sur moi et une voix de femme criait de me retourner. Une clé de bras, les menottes et un grand agent me demande alors de me lever. Je m'exécute et il me colle une tarte pour me recoucher sur le lit. Il me demande alors de recommencer et je reprends un coup. Puis il me traîne par les cheveux pour que je m'assoie. On dirait une mauvaise scène de film d'action. Ce Rouennais, donc, une fois qu'il s'est pris ses trois baffes et qu'il s'est retrouvé en menottes, il verra ensuite son appartement fouillé minutieusement par l'antiterrorisme. Son journal intime est photographié page par page. Tout ça sont des pratiques d'interpellation dans le cadre d'arrestations politiques. Dès que ces personnes ont pu être identifiées par les services de renseignement, commente leur avocate, justement, Chloé Chalot, au journaliste de Basta Mag. C'est évidemment, continue l'avocate, lié au contexte de l'infraction et à son message politique, que l'enquête a été confiée donc à la sous-direction antiterroriste. En temps normal, ce type d'infraction devrait être confié aux polices judiciaires départementales, explique toujours cette avocate. Les gardes à vue auront lieu, elles, pour la plupart, dans les locaux de la SDAT à Levallois-Perret, donc on est dans les Hauts-de-Seine, au quatrième sous-sol, place aux interrogatoires pendant 3 jours. On a fait 70 heures de garde à vue chacun, avec ma compagne, déplore donc ce militant qui s'appelle Michel. Il n'y avait pas un bruit dans le bâtiment, c'est très troublant. Tout cela était plus déroutant que les claques que j'ai prises au réveil, explique Paul aussi. Alerté par ces récits, d'ailleurs, plusieurs psychologues ont pu œuvrer au sein d'un comité de soutien qui s'est organisé pour l'occasion, histoire que ces personnes ressortent avec le moins de traumatisme possible. Donc ces interrogatoires vont rythmer les journées, ils vont se succéder allant de 1 par jour jusqu'à 2 pour certains des gardés à vue. En audition, par exemple, explique Dimitri, on m'a demandé pourquoi je possédais un livre de recettes vegan. Voilà, faut bien savoir quoi répondre. Dimitri a passé 70 heures enfermé dans le cadre de cette procédure. Au bout de ces 3 jours passés, vient alors le moment de la libération. Et là aussi, quelques petites surprises hein, de mise en scène, comme dans un bon film d'espionnage. Mathilde, par exemple, qui explique qu'on lui a bandé les yeux et qu'on l'a relâché dans la rue n'importe où à 6 heures du matin. Comme d'autres de ses camarades d'infortune, d'ailleurs, elle souhaite un effacement maintenant de ses empreintes ADN, puisque le droit lui permet, vu que son cas a été classé sans suite. Mais ça risque d'être encore une longue bataille judiciaire, puisque leur ADN a été pris aussi, d'ailleurs, dans son cas, sans son consentement, grâce à avoir récupéré ses sous-vêtements. Toutes les personnes sorties avec un classement sans suite ont exercé d'ailleurs leur droit au silence, rappelle l'avocate Chloé Chalot, qui rappelle qu'on a toujours le droit de se taire. Et elle défendra aussi une personne au tribunal le 27 juin, donc dans le cadre des autres inculpés qui, eux, sont toujours sous le coup de la justice. Cela signifie, dit-elle, que les gardes à vue, le fait que ces personnes aient été relâchées sans aucune charge, cela signifie donc que ces gardes à vue n'ont rien apporté et que les indices qui ont pu être recueillis contre elle au moment de la garde à vue étaient très légers. Cela inquiète cette avocate au vu de l'ampleur du dispositif déployé. En tout cas, pour ce qui est des militants qui sont sortis donc, et qui ont pu voulu témoigner, pas de quoi ébranler leur militantisme et leur détermination. Ils, d'ailleurs, tous ont exprimé cela en, par exemple, reprenant les mots de Mathilde. « Cette volonté de nous isoler a totalement échoué, car pendant que l'on croupissait en garde à vue, un grand élan de solidarité s'est créé avec un soutien psychologique, nos proches contactés et on a même gardé mes enfants », se réjouit d'ailleurs Mathilde. Aujourd'hui, conclut-elle, j'en ressors renforcé et je me suis fait de nouveaux amis.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, on va terminer ces nouvelles du monde avec des nouvelles du travail pour ceux qui vont être bénévoles aux Jeux Olympiques. On est à 100 jours hein, du début de la compétition et c'est Mediapart qui a fait cette enquête qui fait pas mal de remous, notamment reprise pas mal sur les réseaux sociaux. On rigole bien quand même hein, de ce qui est proposé à ces bénévoles, mais on rit jaune plus lisé plus tôt. Ce sont 45 000 de ces volontaires d'ailleurs hein, des Jeux Olympiques qui seront présents normalement sur l'événement. Eh bien, ils déchantent un petit peu puisque justement les plannings commencent à arriver. Ils racontent notamment la grande désorganisation et les plannings très chargés qu'on leur a communiqués. Pour ce qui est des opposants, justement, à cette politique et aux JO en général, eh bien, on dénonce la plus grande campagne de salariat déguisé qu'ait connue la France. Rien que ça. Les JO 2024 s'inscrivent dans cela dans une longue tradition hein, du travail gratuit. Ce n'est pas Paris qui a inventé cette manière d'opérer, puisque d'édition en édition, les Jeux Olympiques s'appuient toujours sur des petites mains non rémunérées, cela au nom de la passion du sport et de certaines contreparties en nature. La démarche rencontre d'ailleurs un franc succès. Hein. Le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, cherchait 45 000 volontaires pour l'édition de de Paris, là, de 2024, mais 300 000 candidats ont postulé avant mai 2023, donc les gens étaient plutôt chauds pour y aller. Mais ces personnes, eh bien, une fois qu'elles ont été sélectionnées, elles doivent venir à Paris, se loger et se transporter à leurs frais, en plein JO, hein, vous imaginez les tarifs, et pour certains, travailler 40 heures contre, a priori, un repas chaud. Ça, c'est garanti, et aucun accès aux épreuves. Et là, c'est un peu la douche froide. Je pense que certains espéraient quand même arriver à pouvoir regarder un petit peu des choses, ou en tout cas côtoyer les sportifs. La réalité sera donc tout autre. Le plus grand programme de volontaires jamais réalisé en France, ça c'est pour la pub, hein, c'est ce dont se réjouit régulièrement Tony Estanguet, qui est le président du comité d'organisation des JO. Bon, lui, il n'est pas bénévole, hein, il est plutôt bien payé, avec d'ailleurs un montage juridique un petit peu étonnant ou spécifique que le parquet national financier a envie d'étudier de plus près. Une enquête vient d'être ouverte sur les conditions de sa rémunération. Spoiler, il y en a qui ont à peu près décompté 300 000 euros pour le job de Tony Estanguet. Mais si on revient à ces milliers de bénévoles, donc, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Eh bien, remplir des missions qui correspondent plutôt à ce qu'on appelle normalement un emploi, à savoir chauffeur, statisticien, gestionnaire d'équipement, gestionnaire de zone de stockage, traitement des demandes d'accréditation. Certaines de ces missions, d'ailleurs, se feront même pas seulement pour les JO, mais au bénéfice d'entreprises privées. Par exemple, le chronométreur officiel des Jeux, l'horloger suisse Omega, eh bien, pourra bénéficier du travail de ses bénévoles. Lui n'amènera personne de chez lui à ce moment-là, mais les JO mettront à disposition des bénévoles. C'est donc en mobilisant des bénévoles que l'entreprise Omega s'affichera comme chronométreur officiel des Jeux. Ça lui fait une certaine pub plutôt gratuite. Les bénévoles effectueront pour la plupart des semaines à temps plein, sans aucune compensation d'aucune sorte. Pas même un billet gratuit ou un billet à prix réduit pour pouvoir avoir des compétitions. Et le comité d'organisation se défend en disant « Non, mais la première condition pour être volontaire, c'est d'être volontaire. On ne fait pas ça pour des contreparties, quoi. » Celles et ceux qui sont venus de loin, qui n'habitent pas sur Paris, devront d'ailleurs se débrouiller pour se loger. Vous imaginez qu'en ce moment, trouver des Airbnb sur Paris, c'est plutôt sympa, hein. Les prix des nuits parisiennes atteignent des cimes. Mais peu importe, les jeux indiquent que par principe, Paris 2024 ne prend pas en charge les éventuels frais d'hébergement des volontaires. C'est vraiment par principe, parce qu'on viendra un petit peu dessus, les sommes engagées sont colossales pour les JO et ça coûterait pas si cher en vrai de rémunérer ou en tout cas de défrayer en partie ces bénévoles. D'ailleurs, le comité a été contacté par Mediapart, hein, qui a fait cette enquête, et il insiste que ce n'est pas la norme dans ce type de mission. Les opposants à la tenue de ces jeux, je vous le disais, ils voient là simplement une campagne de travail dissimulée à un niveau industriel. Et ils rappellent que la compétition va s'installer notamment en Seine-Saint-Denis, hein, le département où le taux de chômage est déjà très important, puisqu'en premier trimestre 2023, on était à 9,8% de chômage, c'est 3% de plus que la moyenne nationale. On peut citer l'exemple d'Alain, un jeune agent public qui vient du Sud, qui ne fait pas du tout partie de ces militants anti-JO, hein, qui est lui plutôt à fond pour, puisqu'il s'est proposé pour être bénévole, mais qui maintenant, au vu des conditions qui lui sont proposées pour son bénévolat, pourrait peut-être devenir un opposant aussi. Alors tout d'abord, le comité d'organisation lui avait annoncé une mission assez alléchante, hein, à savoir la réception des athlètes au Stade de France. Il était d'ailleurs sur liste d'attente pour ce poste. Finalement, il a pu être titularisé fin 2023, mais sur un autre poste. En effet, eh ben, son boulot, ça va être d'indiquer aux perdus, ceux qui se perdent, le chemin pour se rendre jusqu'aux compétitions. Ça sera à la Gare du Nord de Paris pour les JO ou à Villepinte en Seine-Saint-Denis pour les Jeux Paralympiques. Officiellement, son titre, c'est équipier transport. Mais dit-il, c'est quand même beaucoup moins sexy que ce qu'on m'avait annoncé. Et rajoute-t-il, si je refuse, je suis radié du programme des volontaires. Donc c'est soit ça, soit rien. Et oui, même là, l'offre et la demande jouent. C'est-à-dire qu'il y a la file d'attente pour être bénévole. Et donc si vous ne voulez pas des conditions qu'on vous propose, bah, on file le boulot à un autre. Ce qui est encore moins sympa d'ailleurs, ce sont les horaires auxquels on lui demande d'être en poste. Il explique que ce sont des créneaux de 13h à 20h, ou alors de 7h du matin à 14h. Et le dernier jour, il bosse de 10h30 à 17h30, donc il a calculé en tout, ça lui fait 56 heures sur 8 jours, avec un jour de repos, donc un temps plein, quoi, sur plus d'une semaine. Pour des gens qui ont pris des vacances pour venir faire ça, c'est sûr que c'est un petit peu dur à avaler. Et d'ailleurs, dit-il, finalement, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est du travail dissimulé. D'ailleurs, le problème, c'est qu'Alain, il a un vrai boulot à côté, il a un emploi, et qu'il n'est pas certain de pouvoir s'organiser pour travailler autant, gratuitement, pour les Jeux Olympiques. Il a envie de proposer ses services sur 2 ou 3 jours, mais comme je vous le disais, il n'est pas sûr de garder sa place de titulaire s'il tente d'imposer des conditions. Et pas sûr d'ailleurs que le comité d'organisation accepte, puisque quand on l'interroge sur le nombre d'heures demandées en moyenne aux bénévoles, Paris 2024, déjà ne donne pas de réponse précise, mais il explique que la charte prévoit des plafonds, plafonds qui sont visiblement toujours atteints. Les missions ne peuvent pas durer moins de 5 heures et plus de 8 heures, donc entre 5 et 8 heures, à part pour certaines qui peuvent aller jusqu'à 10 heures de suite. Et sinon, au niveau des horaires, les missions ne peuvent pas commencer avant 5 heures du matin et finir après 2 heures. Mais cette règle aussi connaît des exceptions très rares, et ces exceptions donnent droit à un jour franc de récupération après mobilisation. Enfin, les bénévoles devront bénéficier de 11 heures consécutives de repos minimum après une journée de travail. Bon là, on est exactement dans le droit du travail. Et un autre problème qui concerne beaucoup de ces gens, justement, qui vont embaucher à 6 heures du matin, des fois par exemple sur des postes de transporteurs, de chauffeurs de bus et tout, et bien c'est qu'ils vont devoir aller prendre leur poste dans des zones des fois de banlieue, et l'accès en voiture n'est pas garanti, notamment des places de parking. Donc quand on commence à 6h du mat, qu'on ne sait pas si on peut garer sa voiture, que les transports en commun, ça n'a pas l'air d'être parti pour être quelque chose de très bien rodé à Paris, on se dit que les bénévoles, les pauvres, ils vont devoir s'arracher les cheveux des fois. Les volontaires, si on revient sur les plannings, les volontaires reçoivent leur créneau de mobilisation depuis le début du mois d'avril, expliquait le comité des JO qui a été interrogé par Mediapart. Et les plannings qui sont distribués en ce moment sont souvent très différents de ce qui était annoncé, on l'a vu avec cet exemple. Les envois d'ailleurs ne sont pas finis puisqu'ils vont être finalisés au cours des prochaines semaines, ça va faire très court pour s'organiser. À savoir qu'en amont de tout ça, en mars, le 23 mars, Paris 2024 avait organisé une grande convention des volontaires où se sont pressés d'ailleurs plus de 20 000 bénévoles venus de toute la France pour, j'imagine, espérer un petit peu en savoir plus. Et bien malheureusement, de cette grande rencontre qui s'est déroulée à Paris, la Défense Arena, beaucoup de bénévoles interrogés ne retiendront que la couleur des tenues officielles conçues par l'entreprise Decathlon. On aurait dit une réunion d'entreprise. S'amuse Hamid, qui est un des bénévoles et qui a été interviewé aussi. Ils nous ont beaucoup plus parlé de Decathlon et de la tenue officielle que de l'organisation précise des missions. Mais lui, il était quand même content d'être là. Il y avait des gens de toutes origines, de tous âges. Ça, c'est chouette. Mais à part ça, dit-il, c'était vraiment une opération de com. Pourquoi faire venir des gens de Marseille, de Lyon, de Bordeaux pour ça? Et oui, puisque les bénévoles avaient là aussi fait le déplacement. À l'extérieur d'ailleurs de cette réunion au mois de mars, une poignée de syndicalistes de la CGT, mais aussi de Solidaires ou de la CNT, ou des membres du collectif Saccage 2024, distribuent un tract sur lequel on pouvait lire « Nous voyons dans le volontariat des Jeux Olympiques les indices d'une relation salariée caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un organisme qui l'organise de manière unilatérale, qui va vous donner des consignes, contrôler votre travail et vous sanctionner le cas échéant. » L'organisation des Jeux Olympiques serait tout simplement impossible sans le travail gratuit pour lequel vous avez été recruté. Eh bien, pour avoir distribué ce tract, ce jour-là, la quinzaine de militants présentes a reçu la visite de la police, suite à quoi ils ont publié ce communiqué. Le gouvernement prétend que les Jeux Olympiques sont une fête populaire, mais s'en sert pour bafouer nos droits fondamentaux, à commencer par celui de la libre expression, et vous l'aurez compris en filigrane aussi, celui du droit du travail. Il y en a qui se sont amusés à faire le calcul là sur les réseaux sociaux, puisqu'on raille beaucoup justement les conditions de bénévolat, vous l'aurez compris. S'il fallait payer tous les bénévoles des JO, ça coûterait 85 millions d'euros, en partant du principe qu'ils font tous une mission d'un mois. Et en vrai, c'est beaucoup moins. Et les 85 millions d'euros que coûterait cette embauche, c'est 0,74% du budget total des JO. On parle de 45 000 salaires au SMIC. Je vous le disais, 85 millions d'euros. Le budget des JO, vous savez combien c'est? C'est 11 milliards. Ah oui, et puis aussi dans les petites brèves sympas, les logements Crous des étudiants, vous savez, qui ont été délogés pour accueillir les bénévoles. Et finalement, ce n'est pas des bénévoles qui vont loger, ça sera des chambres qui vont accueillir les CRS. Et oui, les bénévoles, eux, ils iront sur des clic-clac, payer 4000 balles la semaine. Voilà. Sinon, il y en a qui soulignent qu'une belle tradition française, c'est la grève, et qu'une grève des bénévoles, quand même, ça serait chouette, ça ferait bien rire.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, on se retrouve jeudi pour d'autres nouvelles du monde. N'oubliez pas votre cache-colle quand vous sortez. Allez, bye bye, bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.